Voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 29 mai 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Iran, Rosneft porte plainte contre les États-Unis. L'alliance pétrolière irano-russe fait peur. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Iran observe une journée de deuil national ce dimanche pour les victimes de l'effondrement tragique d'un immeuble dans la ville méridionale d'Abadan. L'Iran dévoile son drone et son missile de croisière de fabrication nationale Haydar. L'armée iranienne ne sous-estime jamais la menace et cette drone se développe de jour en jour, déclaration du chef d'état-major des forces armées. Et puis, deux pétroliers grecs saisis à cause de la violation des lois maritimes, annonce l'Organisation iranienne de la navigation. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran observe une journée de deuil national pour les victimes de l'effondrement d'un immeuble dans la ville méridionale d'Abadan. Le gouvernement a décrété le deuil national pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées ce dimanche. 7 jours après l'incident, les équipes d'urgence sont toujours sur le site, enlevant les débris. Le gouverneur d'Abadan a déclaré qu'un autre corps avait été retiré des décombres ce matin, portant le nombre de décès confirmés à 29 jusqu'à présent. Les secouristes ont également retiré des dizaines de personnes vivantes du site. Le bâtiment Métropole inachevé, situé dans la rue la plus fréquentée d'Abadan, s'est effondré lundi dernier, laissant des dizaines de personnes piégées dans les ruines. Les responsables blâment les pratiques de construction défectueuses pour l'incident. Le président iranien Ebrahim Raisi a assuré que les responsables de l'incident catastrophique seront punis. Le drone et le missile de croisière iranien Haydar dévoilés. De nouvelles réalisations iraniennes dans le domaine des drones ont été dévoilées lors de la visite samedi du chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran à la base souterraine cachée de drones de l'armée. Lors de la visite, samedi 28 mai, du général de division Mohammad Borheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, sur la base stratégique 313 pour les drones de l'armée de la République islamique, de nouvelles réalisations nationales ont été dévoilées et exposées pour la première fois. La première réalisation est le missile de croisière Haydar 1 qui a été présenté comme portable par le drone Kaman 22 de la force aérienne de l'armée de la République islamique d'Iran et le Fortos. Selon les informations annoncées, son missile a une portée de 200 km et sa vitesse au moment de toucher la cible est de 1000 km par heure. Haydar 1 est le premier missile de croisière capable de tirer depuis un drone. La deuxième réalisation est le drone de croisière Eidar II, qui est un drone cargo sur un hélicoptère, et des images de son installation sur le hélicoptère aéroporté 214 ont déjà été publiées. Le général de division Borrelli, en visite sur la base 313 de drones de l'armée de la République islamique d'Iran, a déclaré à cette occasion que l'Iran ne sous-estime jamais la menace et cette drone se développe de jour en jour. Soulignant l'importance des drones dans le combat moderne, le chef d'état-major général des forces armées iraniennes a déclaré « L'armée de la République islamique d'Iran, qui a profondément saisi les besoins dans les futures batailles potentielles, sait utiliser de nouvelles méthodes et de nouveaux équipements pour ainsi entrer dans l'arène évolutive d'aujourd'hui et de demain. » Heureusement, aujourd'hui, dans le domaine des drones, on assiste à cette puissance chez l'armée, s'est-il félicité. Sachez également que le commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, présent lui aussi à la cérémonie de dévoilement, a déclaré « Notre plus grande réussite est que nous nous dépendons de nulle part et que nous pouvons répondre à tout ce dont nous avons besoin pour défendre le pays et qu'en aucun cas la mise à niveau de la puissance de combat, y compris celle des drones, n'est imparable ». Pétroliers grecs, les deux pétroliers grecs saisis à cause de la violation des lois maritimes, a insisté l'Organisation iranienne de la navigation. L'Organisation iranienne des ports et de la navigation, en tant qu'autorité maritime de la République islamique d'Iran, a déclaré que la raison de la saisie de deux pétroliers grecs dans les eaux du Golfe Persique était des violations maritimes commises par ces navires. Une délégation de l'Organisation iranienne des ports et de la navigation a poursuivi. Deux navires grecs ont été arrêtés en raison de violations maritimes et cette affaire fait l'objet d'une enquête sur la base de preuves et de documents. Et après avoir rempli la documentation, les mesures juridiques nécessaires seront prises. Cette organisation iranienne, tout en niant la détention de l'équipage de ces deux pétroliers grecs, a déclaré « Tous les équipages des deux navires grecs sont en parfaite santé et pendant qu'ils sont à bord, ils sont protégés et entretenus conformément au droit international. » Sachez d'autre part que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré samedi que les liens entre Téhéran et Athènes ne devraient pas être entravés par des erreurs de calcul profondément myopes sur ordre d'un tiers. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a noté dans un tweet samedi que Téhéran et Athènes avaient toujours entretenu des liens anciens basés sur le respect mutuel qui ne devraient pas être entravés par des erreurs de calcul profondément myopes, y compris le vol de grands chemins sur ordre d'un tiers. Il a ajouté que les liens anciens de l'Iran avec la Grèce et son grand peuple ont toujours été basés sur le respect mutuel. Le porte-parole a également confirmé que les membres d'équipage des deux pétroliers grecs saisis sont sains et saufs. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué vendredi le chargé d'affaires de la Suisse qui représente les intérêts de Washington à Téhéran pour protester contre la saisie par les États-Unis d'une cargaison de pétrole iranien dans les eaux territoriales grecques. L'Iran appelle la Turquie à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie après qu'Ankara a annoncé des plans pour une nouvelle opération militaire dans le pays arabe. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran s'oppose à tout recours à l'action militaire et à l'usage de la force pour résoudre les différends. Selon Saïd Khatibzadeh, de telles mesures violent la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays et ne font que compliquer la situation. On finit par la Palestine, déploiement massif des forces sionistes à Al-Quds occupée. Le régime sioniste a renforcé ses forces à Al-Quds occupée, en particulier dans la zone de Bab al-Amoud, à la veille d'une marche appelée le drapeau des sionistes extrémistes par crainte du mouvement de la résistance du peuple palestinien. Selon les sources palestiniennes, le régime israélien a augmenté le nombre de ses forces à Al-Quds occupée dès les premières heures d'aujourd'hui dimanche, avant la marche des drapeaux des colons. Les médias sionistes ont également rapporté que l'armée israélienne a commencé à renforcer ses forces dans la zone de Bab al-Hamoud pour affronter les Palestiniens en raison de la marche des drapeaux ce matin. Pendant ce temps, les Palestiniens tentent d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa depuis l'intérieur de la ligne verte et les forces sionistes les en empêchent. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Iran, Rosneft, porte plainte contre les États-Unis. L'alliance pétrolière irano-russe fait peur. Le géant pétrolier russe, Rosneft, envisage de porter plainte contre le département du Trésor américain, a déclaré cette semaine le porte-parole de la société, Mikhail Leontiev. La décision de Rosneft fait suite aux accusations du Trésor selon lesquelles la société russe aurait participé à la contrebande de pétrole et au blanchiment d'argent pour l'Iran, selon le porte-parole. « Nous défendrons nos intérêts devant les tribunaux », a déclaré Leontiev. Tout ce que le secrétaire d'État américain Blinken dit est mensonge délibérément indémontrable avec des nuances égoïstes, a-t-il dit, parce qu'il a échoué dans tout ce qu'il pouvait du point de vue des intérêts de l'administration américaine actuelle, a-t-il insisté. Anthony Blinken a annoncé mercredi que les États-Unis imposaient des sanctions contre un réseau international impliqué dans la contrebande de pétrole et le blanchiment d'argent. Il a déclaré que le réseau était dirigé par des personnalités actuelles et anciennes de la République islamique d'Iran, soutenues par les hauts gradés du gouvernement de la Fédération de Russie, et comprenait également des entreprises chinoises et un ancien diplomate afghan. Le responsable américain a menacé de sanctionner quiconque achète du pétrole iranien. Depuis plus de 3 ans, les États-Unis bloquent le commerce du pétrole iranien après le retrait de l'administration Trump de l'accord nucléaire international. En avril 2019, Washington a menacé de sanctionner les pays qui continuaient d'acheter du pétrole à Téhéran après l'expiration d'une première dérogation de 6 mois annoncée en novembre. Il est à noter qu'un pétrolier battant pavillon russe, qui s'était réfugié dans les eaux grecques en raison des conditions météorologiques, a récemment été saisi par la Grèce. Les autorités occidentales ont par la suite prétendu que la cargaison de ce pétrolier appartenait à l'Iran et c'est pourquoi la Grèce avait remis ce pétrolier aux autorités américaines. En réponse à cette décision, l'Iran a convoqué l'ambassadeur grec, la qualifiant de piraterie internationale. Téhéran a appelé dans un communiqué le gouvernement grec à se conformer immédiatement à ses obligations internationales.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Dans la nuit de 25 à 26 mai, plusieurs unités militaires turques ont franchi la frontière de la Syrie. L'artillerie de l'armée turque a pilonné en effet les positions dans différentes localités en banlieue d'Alep, sans pour autant aller attaquer en effet l'armée syrienne. Cette offensive intervient 48 heures après un discours du président turc Recep Tayyip Erdogan qui avait menacé en effet de lancer une offensive d'envergure dans le nord de la Syrie pour créer prétendument une zone de sécurité de 30 km le long de la frontière, mais aussi pour combattre les miliciens du PKK, parti du travailleur, des travailleurs en effet du Kurdistan irakien. L'armée turque mène depuis la mi-avril des opérations dans le nord de l'Irak visant les positions du PKK et le chef d'État turc a en effet annoncé envisager une opération similaire dans le nord de la Syrie. Cette offensive intervient au moment où la Russie fait profil bas en Syrie en raison de la crise ukrainienne et au moment où, en effet, la Suède et la Finlande, en effet, ont remis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Cette offensive intervient également après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser ces derniers développements concernant la Syrie et l'offensive turque dans le nord de ce pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Quelques heures après le début de l'offensive turque contre le nord de la Syrie, où la Turquie a pour mission de créer de concert avec Israël une zone de sécurité de 30 km de long avant de s'emparer d'Alep et de s'offrir de quoi cibler la flotte méditerranéenne de la Russie, l'aviation russe a lancé un premier avertissement. Des avions de combat de la force aérospatiale russe ont effectué une série de frappes aériennes simulées au-dessus des zones occupées par la Turquie dans le nord-est de la Syrie. Les frappes aériennes simulées, qui ont commencé mercredi 25 mai tard dans la nuit et qui se sont poursuivies jusque lendemain matin, visaient la périphérie de la ville de Tel Abyad au nord de Raqqa et la ville de Ras Al Ain au nord de Hasakeh. Des sources locales ont signalé plusieurs fortes explosions dans le ciel. Les frappes aériennes russes étaient probablement destinées à envoyer un message à l'armée turque et à ses mandataires qui se prépareraient à lancer de nouvelles opérations à grande échelle dans le nord et le nord-est de la Syrie. Lors d'une conférence de presse suivant une réunion du cabinet tenue le 23 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fait part d'une opération militaire imminente en Syrie destinée à relier deux zones déjà sous le contrôle des Turcs. Une nouvelle opération turque dans le nord et le nord-est de la Syrie violerait plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie et risque de déclencher une confrontation directe entre l'armée syrienne et les forces d'occupation turques. La Russie ne s'est pas encore officiellement exprimée à propos d'une intervention dans le conflit entre la Turquie et la Syrie. Cependant, étant donné que la Syrie est l'un des alliés les plus importants de Moscou dans la région, la Russie s'opposera catégoriquement à toute nouvelle opération turque. Alors que le ciel syrien se barricade quasi hermétiquement, reste à savoir si Erdogan est la partie qui pourrait l'aider à inverser cette tendance. Quant à la réaction russe contre cette convoitise anti-Alep, anti-Tartus, elle pourrait s'illustrer par un S-300 en colère qui chasserait les FCS turcs, voire sionistes. Après tout, aussi bien la Turquie qu'Israël ont déjà abattu des avions russes dans le ciel de la Syrie.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Et bonjour à M. Develet, votre invité.
Madame Medani, une nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi. L'artillerie turque qui a pilonné plusieurs localités à proximité, en effet, d'Alep. Comment s'explique-t-elle cette nouvelle convoitise turque? Est-ce que là, il s'agit d'une nouvelle velléité expansionniste du président Erdogan en pleine crise ukrainienne, au moment où les tensions, comme vous le savez, montent au sein de l'OTAN à cause de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, et la Turquie a menacé de faire barrage justement à cette adhésion, et d'autant plus que cette nouvelle opération, cette nouvelle offensive en effet, intervient alors quelques jours après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël.
Alors, en fait, les velléités d'expansion de Erdogan ne sont pas nouvelles. Il a toujours été, je rappelle quand même que la Turquie a été un petit peu réellement la tête de pont de l'agression contre la Syrie depuis 2011, que c'est par la Turquie que tous les terroristes ont filtré dans par la frontière turque, en fait, sont arrivés en Syrie, que la Turquie a dirigé et dirige toujours des hordes terroristes dans le nord de la Syrie, tout ça sous prétexte de lutter contre les Kurdes en nord de la Syrie. Je voudrais rappeler quand même que la Turquie est une force importante de l'OTAN, donc obéit aux ordres américains, puisque c'est les États-Unis qui dirigent l'OTAN, d'une part. D'autre part, de la même manière d'ailleurs qu'Israël et vice-versa. D'un autre côté, l'offensive turque sur la Syrie, sur les frontières syriennes, n'est pas nouvelle. Donc, elle date bien depuis 2011, que cette histoire de zone de sécurité à l'intérieur de la Syrie a été brandie au début de l'agression contre la Syrie. Elle a été contenue et limitée, effectivement, par les accords d'apaisement qui ont été menés par la Russie, en fait. Mais il est clair que à chaque fois que la Turquie ou les terroristes perdaient du terrain, la Turquie venait à leur rescousse, d'une part. D'autre part, ils prétendent aussi être contre les forces dites kurdes de Qassab et opposé à la création d'un État kurde dans le nord de la Syrie et donc opposé à la séparation ou au dépeçage de la Syrie. Ils ont quand même signé tout un tas de traités, et notamment ils ont signé Astana, qu'ils n'ont jamais, et les accords d'Astana qu'ils n'ont jamais appliqués. Ils ont signé des accords dans lesquels ils s'engageaient à sortir, à dégager les autoroutes M4, M5, et puis pousser les terroristes à l'extérieur, à 6 km de part et d'autre de ces autoroutes, chose qui n'a rien été, et il n'en a rien été. Je rappelle qu'en 2018-2019, l'armée arabe syrienne a gagné aussi, elle s'est engagée dans des combats très importants aussi avec les terroristes à Jisr al-Shour et à Riha dans le nord d'Idlib. Et là, c'est Erdogan est allé quémander un entretien à Poutine, et au cours duquel le 5 mars, justement, cet accord a eu lieu, justement, où il devait s'engager, et il avait délai jusqu'en juin de 2019 pour se retirer, mais il n'a jamais appliqué jamais, jamais appliqué tous ces accords qu'il a signés, jamais honoré les traités qu'il a signés au sein des accords d'Astana et des zones d'apaisement. Donc, en fait, il est clair que Erdogan traite aussi, en fait, aussi avec les Israéliens. L'objectif, c'est aussi un peu encercler la Syrie. Et ça, c'est très grave. En fait, là, aujourd'hui, il se sent encore plus fort du fait que la Russie est occupée peut-être avec l'Ukraine. Mais à mon avis, il se trompe parce Merci. Que de toute façon, la Russie honore aussi tous ses engagements. Et à propos de la Syrie, ça va se retourner contre la Turquie, en fait, qui joue aussi un mauvais jeu ou un sale jeu vis-à-vis de la Russie, aussi bien vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'ils fournissent des avions et des munitions aussi au régime de Zelensky. Et puis, d'un autre côté, ils jouent aussi de l'autre côté, ils essayent de jouer quand même pour la Russie, en s'opposant à l'accès de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
Merci, donc, Madame Medeni. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Damas, Maître Arnaud Develle, juriste international. Maître Develle, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Madame Medeni.
Alors, concernant toujours cette nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie, Madame Medeni l'a rappelé, elle viole bien sûr plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie. Dans quel contexte replacez-vous, Maître Develle, ce nouveau jeu du président Erdogan? Est-ce que là, il y a une coordination, une connivence entre les États-Unis et Israël concernant cette nouvelle offensive turque?
Écoutez, je pense que cette coordination n'a jamais vraiment cessé. Erdogan avait, au travers de l'opération Rameau d'Olivier, tenté de procéder, et il a réussi en grande partie à une forme de nettoyage ethnique dans les zones envahies par l'armée turque. L'idée étant de préparer le terrain, si je puis dire, pour ce que le président turc a annoncé, sous couvert, bien sûr, c'est toujours un peu le même mantra, se protéger des actions terroristes du PKK. Ce qui laisse un peu penser que quelque part, il prend ses leçons à Washington. Vous l'avez souligné, en même temps, la coordination avec les Israéliens est évidente. Mais j'allais dire aussi avec le Qatar, puisque nous avons eu des rapports récents de rencontres haut niveau entre les cadres de la soi-disant armée syrienne libre. Et on sait maintenant que l'objectif en ce qui concerne cette opération, qui pour l'instant est au stade de préparer l'opinion publique turque pour la réinjection de près d'un million de réfugiés, mais plutôt pro-Ankara, dans la région en question, fusionner les commandements de HTS, donc Al-Nusra, Al-Nusra en Syrie, Al-Qaïda en Syrie, et donc la SL. On peut penser que si cette opération venait à prospérer, entre guillemets, cela poserait bien sûr un problème stratégique important pour Damas, parce que cette zone pourrait alors être une rampe de lancement pour la résomption d'opérations visant à opérer la politique du changement de régime, mais aussi pour la Russie, bien sûr, puisque étant à quelques encablures des bases russes, n'oubliez pas que l'objectif de l'OTAN, c'est aussi d'éjecter et d'expulser la Russie de la région. Donc tout ça est cousu de fil blanc. On peut ajouter que quelque part, en s'emparant aussi si je puis dire, des ressources de portes sur l'eau. Erdogan viole aussi le droit humanitaire, les conventions de Genève, les conventions de La Haye, et que dans ce contexte-là, il s'est affranchi maintenant, bien sûr, non seulement de toutes ses obligations internationales, plus précisément, comme l'a souligné Dr Midani, des accords d'Astana qu'il avait signés il y a à peine 2 ans et demi de cela, mais aussi qu'il joue un jeu, effectivement, parce que tout est connecté entre la Syrie et l'Ukraine. Je renverrai nos auditeurs à la doctrine énoncée par la Fondation RAND, hein, qui consiste aussi à créer tous ces théâtres d'opérations pour épuiser la Russie, et que dans ce contexte-là, avec effectivement l'annonce de la volonté d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, on retrouve encore le bon opératoire d'Erdogan, qui est de celui de, initialement, laisser entendre qu'il s'opposera à ces adhésions, mais c'est pour mieux en fait annoncer la couleur qu'il veut négocier et il veut quelque chose en retour. Alors, on a entendu dire qu'il y avait eu des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il avait approché le président russe en lui disant « tu me donnes la carte, le chemin libre, la voie libre à Idlib et j'impose mon veto ». On peut penser que c'est de la désinformation puisque l'État russe est très légaliste et en aucun cas ne se laisserait tenter quant à violer ses propres engagements vis-à-vis de Damas. Merci. Mais vous voyez, c'est un peu le mode opératoire d'Ankara et en ce contexte-là, on est en pleine doctrine Erdogan, si je puis dire.
Merci pour ces éclairages. Maître de Velay, restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Edeni, quelles seront les répercussions sécuritaires et stratégiques de la nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie? Alors, vous avez rappelé à tout à l'heure, peut-être en raison de la crise ukrainienne, alors la Russie alors, serait en quelque sorte contrainte de retirer ses forces d'une partie au moins de ses forces de la Syrie. Donc, mais cela a permis, bien sûr, selon de nombreux observateurs à la République islamique d'Iran, de renforcer la DCA donc de l'armée syrienne. Est-ce que là, cela ne risque pas de déclencher une confrontation directe entre l'armée turque et l'armée syrienne?
Écoutez, je crois que depuis un certain temps, effectivement, il y a des provocations turques, en fait, vis-à-vis de la Syrie. Les bombardements incessants des villages de la frontière syrienne, aussi bien du côté de Ras el Ain que du côté de Hasakeh, et aussi du côté d'Alep, hein, ils ont été vraiment incessants. Cette opération, je crois, qui vise effectivement à élargir d'ailleurs même l'influence, les lieux d'influence des Turcs à l'intérieur de la Syrie, ajouté au fait qu'il y ait eu des constructions de maisons qui ont été distribuées aussi, soi-disant, aux réfugiés syriens de la Syrie et que c'est un véritable changement ethnique, je dirais, des territoires aux frontières de la Syrie, aux frontières syriens, aux frontières de la Turquie. Donc en fait, effectivement, je crois que de toute façon, on va vers une confrontation totale avec l'armée turque, qui malheureusement jusqu'à maintenant a été plus ou moins stoppé par nos amis russes pour des considérations en fait d'apaisement justement et puis de résolution je dirais un peu pacifique évitant vraiment des grosses destructions comme c'est effectivement dans la doctrine russe et d'ailleurs même la doctrine syrienne qui est la patience stratégique et qui a donné ses résultats par rapport à la population. Or aujourd'hui effectivement les Turcs, Erdogan est impatient parce que la progression d'une part de la résistance populaire en Syrie a augmenté de manière assez importante. De l'autre côté, les réconciliations et puis l'effet de cette loi d'amnistie qui a été faite par le président Assad fait que nombreux combattants, en fait, entre guillemets, nombreuses personnes qui étaient obligées de se battre aux côtés de Assad et aux côtés des terroristes rejoignent l'armée arabe syrienne maintenant et reviennent dans le giron de la patrie, chose qui est une véritable victoire, je dirais, sociale, qui vide le mouvement Assad de sa substance. Et de ce fait, d'ailleurs, je rappelle quand même qu'au-delà même des attaques militaires, il y a le vol et le pillage des ressources syriennes de blé, de coton, du pétrole syrien et du gaz syrien qui aujourd'hui sont pillés ouvertement par les Américains, mais qui avant étaient soi-disant pillés par les terroristes, mais qui transitaient vers la Turquie et qui profitaient aux entreprises du fils de Erdogan, oui. De Bilal Erdogan. Donc, tout ceci est dur depuis 10 ans.
Merci, Madame Bedeni.
Là, effectivement, on va finir par peut-être une confrontation, mais je crois que la Syrie évite cette confrontation aussi pour qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes civiles. Ce sont des régions, quand même, il faut savoir, qui sont pas seulement des régions riches et importantes, mais aussi des régions où il y a beaucoup qui sont peuplées
par les Syriens,
qui sont bien peuplées.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, il nous reste 2-3 minutes. Il semblerait qu'il existe un projet, en effet, commun entre Israël, entre la Turquie d'une part et d'autre part le tandem américano-israélien, à savoir contrer, en effet, la DCA à intégrer et renforcer de la Syrie, épaulée bien entendu par l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette confrontation, de ces combats, de ces affrontements, au moment où, comme vous le savez, l'armée israélienne a également multiplié ces derniers temps ses frappes aériennes contre la Syrie?
Bah, écoutez, le temps difficile à prévoir. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que l'incise, si je puis dire, de cette renouvellement, de cette réactivation du plan qui vise à effectuer un changement de régime, passera par la Turquie. Et en cela, je rejoins tout à fait Madame Bidani quand elle dit que Erdogan s'impatiente. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il est confronté à une situation économique catastrophique. Ce qui explique tous ses voyages dans la région récemment où il a tenté de se rapprocher avec les Saoudiens, mais aussi avec les Israéliens, vous l'avez souligné. Et dans ce contexte-là, cette politique, si je puis dire, ambivalente qu'il cultivait depuis environ 4-5 ans, commence de moins en moins à lutter, si je puis dire. Il est obligé de revenir dans le giron. Et je pense que, eu égard à effectivement cette situation à laquelle il est confronté, n'oublions pas que les élections présidentielles auront lieu l'année prochaine en Turquie, que c'est supposé marquer le centenaire de la révolution turque, donc c'est quelque chose qui a à cœur à Erdogan, et je pense que dans ce contexte-là, il a à cœur de, si je puis dire, évacuer une partie de la pression interne dans ce projet de colonisation au nord de la Syrie, mais au-delà de ça, maintenant, c'est quelque chose qui nécessiterait un financement pérenne de la zone en question, et cela, la Turquie n'a pas les moyens de le faire. Donc, on peut penser que une fois le processus de colonisation, la rampe de lancement, puisqu'il s'agit d'une rampe de lancement, sera activée avec l'idée de s'emparer de davantage du territoire syrien.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Velay, juriste international depuis Davos. Je remercie également Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, qui était en ligne avec nous depuis Paris. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
La Russie va augmenter son engagement dans 19 pays africains dans les années à venir, selon un think tank américain. Un influent think tank qui conseille le Pentagone estime que trois sous-régions du continent sont particulièrement perméables à une plus forte présence économique et militaire de Moscou. Le think tank américain Rand Corporation a estimé dans une récente étude que la Russie dispose de bonnes conditions pour accroître son engagement économique et militaire dans 19 pays africains dans les années à venir. Rand Corporation, qui affirme avoir utilisé des techniques innovantes de visualisation géospatiale pour établir une cartographie des pays, Russia-friendly, précise que 5 États situés majoritairement en Afrique du Nord offrent des conditions idéales pour un renforcement de l'engagement de la Russie sur le continent. La Libye, le Soudan, l'Égypte, l'Algérie et la République centrafricaine. Il s'agit d'États où la Russie a déjà un niveau substantiel d'implication, où les principales sociétés militaires privées SMP tirent déjà des revenus importants. Il serait surprenant que l'engagement de la Russie n'augmente pas dans chacun des 5 pays dans les prochaines années, souligne étude intitulée « La présence croissante de la Russie en Afrique ». Une évaluation géostratégique Russia Growing Presence in Africa, a Geostrategic Assessment, à un degré moindre, 14 autres pays situés pour la plupart en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, offrent aussi des conditions locales favorables à une plus grande présence russe, d'après le think tank classé comme l'un des plus puissants du monde. Ces pays où Moscou dispose d'un minimum d'influence actuellement sont le Gabon, le Nigeria, le Tchad, la Guinée, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Angola, le Cameroun, la RDA Congo, la Guinée-Bissau, Madagascar, le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Les autres pays du continent offrent des conditions faibles ou très faibles pour un plus grand engagement de la Russie. Algérie-Italie, nouveaux accords sur l'exploitation de gaz, d'électricité et d'hydrogène vert. Pour réduire sa forte dépendance au gaz russe, l'Italie se tourne vers l'Algérie. Plusieurs nouveaux accords de coopération en matière énergétique ont été signés entre les deux pays. Au deuxième jour de la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie, Rome et Alger ont renforcé leur coopération dans le domaine énergétique en signant plusieurs accords portant sur la fourniture d'électricité, le développement de l'hydrogène vert et l'augmentation des livraisons de gaz naturel. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue le jeudi 26 mai avec son homologue italien Sergio Mattarella, le chef d'État algérien a annoncé la signature d'un accord portant sur la fourniture de l'électricité à l'Italie et à une partie de l'Europe via un câble sous-marin. Grâce à l'Italie, nous serons en mesure d'approvisionner l'Europe en électricité, s'est félicité M. Tebboune. ENI et le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach ont également signé un nouvel accord pour le développement de champs gaziers en Algérie et des projets de décarbonation dans l'hydrogène vert en présence du chef du gouvernement italien Mario Draghi et du président algérien. Le développement de ces champs gaziers devrait permettre l'exportation de 3 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an vers l'Italie via le gazoduc Transmed, alors qu'un projet pilote de production d'hydrogène vert sera lancé sur le site du puits pétrolier de Bir Reba North, que les deux entreprises co-exploitent dans le désert algérien. Plusieurs autres accords de coopération ont par ailleurs été signés entre Rome et Alger dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'appui au PME-PMI et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'Italie importe environ 95% de ses besoins en gaz naturel, dont environ 40%, 29 milliards de mètres cubes, provenaient de la Russie en 2021. La Banque mondiale, préoccupée par le projet de centre d'investissement en bitcoins en Centrafrique. L'institution financière multilatérale pointe le manque de transparence entourant le projet de crypto-hub porté par les autorités centrafricaines et s'interroge sur ses efforts sur l'inclusion financière et les finances publiques du pays. La Banque mondiale s'est déclarée ce mercredi 25 mai préoccupée par le projet de centre d'investissement en bitcoins annoncé par la présidence de la République centrafricaine. Nous avons des préoccupations concernant la transparence du projet ainsi que sur ses implications potentielles pour l'inclusion financière, le secteur financier et les finances publiques en général, en plus des aspects environnementaux, a déclaré un porte-parole de la Banque mondiale cité par Bloomberg. L'institution a également relevé le manque de coordination avec les autorités de régulation du secteur financier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il est important que les institutions régionales concernées telles que la Banque centrale commune aux pays de la CEMAC et l'autorité bancaire soient pleinement consultées, restent aux commandes, a ajouté la Banque mondiale. Alors que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a évoqué dans un tweet annonçant le lancement du hub d'investissement en crypto-monnaie, un prêt de 35 millions de dollars de la Banque mondiale destiné à financer la numérisation du secteur public, la Banque mondiale a clairement indiqué qu'elle ne soutient pas l'initiative cryptographique de la République centrafricaine. Le chef d'État avait annoncé dans un communiqué publié dans la soirée du lundi 23 mai le lancement imminent d'un centre d'investissement légal en bitcoins appelé Sango. Il n'a pas cependant révélé sur sa date d'ouverture ou son mode de fonctionnement. La Centrafrique, dont le PIB est estimé à 2,3 milliards de dollars, où le taux de pénétration d'Internet est d'environ 11%, est devenu en avril dernier le premier pays d'Afrique et seulement le deuxième au monde après le Salvador à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Au lendemain de cette adoption, le Fonds monétaire international, FMI, a appelé à ne pas voir le Bitcoin comme une panacée contre les défis économiques auxquels l'Afrique fait face. L'Afrique a contenu plusieurs foyers de variole du singe durant la COVID-19 sans créer la panique, Africa CDC. Depuis plusieurs semaines, des cas de variole du singe ont été découverts en Europe et en Amérique, suscitant une vague de peur quant à une nouvelle pandémie. Mais d'après Africa CDC, le continent a déjà enregistré plusieurs cas du virus entre 2020 et 2022 et les a maîtrisés sous le radar. En pleine crise de COVID-19, les pays africains ont enregistré des résurgences de variole du singe, annoncé ce jeudi 19 mai Ahmed Ogvel Ouma, directeur par intérim du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Selon le responsable, ces épidémies ont été maîtrisées sans créer la panique au sein des populations ou dans les médias. Durant la COVID-19, nous avons eu au moins 2 foyers de cas de variole du singe, mais ils étaient tous sous les radars et nous les avons gérés contenus. Maintenant qu'ils apparaissent ailleurs, ils font là une des journaux, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse hebdomadaire. Ces cas sont apparus essentiellement au sein de communautés de personnes vivant près de forêts en Afrique centrale, en RDC, en RCA et au Cameroun, essentiellement, ainsi qu'au Nigeria.
à qui Téhéran